La peste écarlate. 1. Sur l'antique voie ferrée. Le chemin à peine tracé suivait ce qui avait été jadis le remblai d'une voie ferrée que, depuis bien des années, aucun train n'avait parcourue. À droite et à gauche, la forêt, qui escaladait et gonflait les pentes du remblai, l'enveloppait d'une vague verdoyante d'arbres et d'arbustes. Le chemin n'était qu'une simple piste, à peine assez large pour laisser passer deux hommes de front. C'était quelque chose comme un sentier d'animaux sauvages. Ça et là, un morceau de fer rouillé apparaissait, indiquant que, sous les buissons, rails et traverses subsistaient. On voyait à un endroit un arbre surgir qui, en croissant, avait soulevé en l'air avec lui tout un rail qui se montrait à nu. La lourde traverse avait suivi le rail, auquel il était rivé encore par un écrou. On apercevait au-dessous les pierres du ballast, à demi recouvertes par des feuilles mortes. Ainsi, rails et traverses, bizarrement enlacés l'un dans l'autre, pointaient vers le ciel, fantomatiques. Si antique que fût la voie ferrée, on reconnaissait sans peine à son étroitesse qu'elle avait été à voie unique. Un vieillard et un jeune garçon suivaient le sentier. Ils avançaient lentement, car le vieillard était chargé d'ans. Un début de paralysie faisait trembloter ses membres et ses gestes, et il peinait en s'appuyant sur son bâton. Un bonnet grossier de peau de chèvre protégeait sa tête contre le soleil. De dessous ce bonnet pendait une maigre frange de cheveux blancs, sales et souillés. Une sorte de visière, ingénieusement faite d'une large feuille courbe, gardait les yeux d'une trop vive lumière. Et, sous cette visière, les regards baissés du bonhomme suivaient attentivement le mouvement de ses pieds sur le sentier. Sa barbe, qui descendait en masse tout emmêlée jusqu'à sa ceinture, aurait dû être, comme les cheveux, d'une blancheur de neige. Mais comme eux, elle témoignait d'une grande négligence et d'une grande misère. Un sordide vêtement de peau de chèvre, d'une seule pièce, pendait de la poitrine et des épaules du vieillard, dont les bras et les jambes péniblement décharnés, et la peau flétrie, témoignaient d'un âge avancé. Les écorchures et les cicatrices qui les couvraient, et le ton bruni de l'épiderme, indiquaient de leur côté que, depuis longtemps, l'homme était exposé aux heurts de la nature et des éléments. Le jeune garçon marchait devant, réglant l'ardeur robuste de ses jarrets sur les pas lents du vieillard qui le suivait. Lui aussi, il n'avait pour tout vêtement qu'une peau de bête. Un morceau de peau d'ours au bord déchiqueté avec un trou en son milieu par où il avait passé la tête. Il semblait avoir 12 ans au plus et portait, coquettement juché sur l'oreille, une queue de porc fraîchement coupée. Dans une de ses mains, il tenait un arc de taille moyenne et une flèche. Sur son dos était un carquois rempli de flèches. D'un fourreau, pendu à son cou par une courroie, émergeait le manche noueux d'un costaud de chasse. Il était aussi noir qu'une mûre, et sa souple allure ressemblait à celle d'un chat. Ses yeux bleus, d'un bleu profond, étaient vifs et perçants comme des vrilles, et leur azur formait un étrange contraste avec la peau brûlée par le soleil qui les encadrait. Ses yeux semblaient épier sans trêve tous les objets ambiants. Et les narines dilatées du jeune garçon ne palpitaient pas moins, en un perpétuel affût du monde extérieur dont elle recueillait avidement tous les messages. Son ouïe paraissait aussi subtile, et à ce point était-elle exercée qu'elle opérait automatiquement, sans même une tension de l'oreille. Tout naturellement et sans effort, celle-ci percevait, dans le calme apparent qui régnait, les sons les plus légers, les départageait entre eux et les classait. Que ce fût le frôlement du vent sur les feuilles, le bourdonnement d'une abeille ou d'un moucheron, ou le bruit sourd et lointain de la mer qui n'arrivait que comme un faible murmure, ou l'imperceptible grattement des pattes d'un petit rongeur dégageant la terre à l'entrée de son trou. Soudain, le corps du jeune garçon s'alerta et se tendit. Simultanément, le son, la vue et l'odeur l'avaient averti. Il tendit la main vers le vieux et l'en toucha, et tous deux se tinrent coi. Devant eux, sur la pente du remblai et vers son sommet, quelque chose avait craqué. Et le regard rapide du jeune garçon se fixa sur les buissons dont le faîte s'agitait. Alors un grand ours, un ours grizzly, surgit bruyamment en pleine vue et lui aussi s'arrêta net à l'aspect des deux humains. L'ours n'aimait pas les hommes, il grogna grincheusement. Lentement et prêt à tout événement, le jeune garçon ajusta la flèche sur son arc et entendit la corde, sans quitter la bête du regard. Le vieux, sous la feuille qui lui servait de visière, épiait le danger, et pas plus que son compagnon ne bougeait. Pendant quelques instants, l'ours et les deux humains se dévisagèrent mutuellement. Puis, comme la bête trahissait par ses grognements une irritation croissante, Le jeune garçon fit signe au vieillard d'un léger signe de tête qu'il convenait de laisser le sentier libre et de descendre la pente du remblai. Ainsi agirent-ils tous deux, le vieux allant devant, l'enfant le suivant à reculons, l'arc toujours bandé et prêt à tirer. Une fois en bas, ils attendirent jusqu'à ce qu'un grand bruit de feuilles et de branches froissées sur l'autre face du remblai les eût avertis que l'ours s'en était allé. Ils regrimpèrent vers le sommet et le jeune garçon dit avec un ricanement prudemment étouffé « C'en était un gros, grand-père !» Le vieillard fit un signe affirmatif. Il secoua tristement la tête et répondit « D'une voix de fossé pareille à celle d'un enfant, ils deviennent de jour en jour plus nombreux. Qui aurait jamais pensé autrefois que je vivrais assez pour voir le temps où il y aurait danger pour sa vie à circuler sur le territoire de la station balnéaire de Cliff House ?» Au temps dont je te parle, Edwin, alors que j'étais moi-même un enfant, homme, femme, petit garçon et petite fille et bébé, accouraient ici par dizaines de milles à la belle saison. Et il n'y avait pas d'ours alors dans le pays, je te l'assure bien. Ou du moins, ils étaient si rares qu'on les mettait dans des cages et que l'on donnait de l'argent pour les voir. De l'argent, grand-père ? Qu'est-ce cela ? Avant que les billards eût répondu, Edwin, se frappant la tête, s'était souvenu. Il avait insinué sa main dans une sorte de poche ménagée sous la peau d'ours, et on avait tiré triomphalement un dollar en argent, tout bossu et terni. Les yeux du bonhomme s'illuminèrent tandis qu'il se penchait sur la pièce. « Ma vue est mauvaise, marmotta-t-il. Toi, regarde Edwin, si tu peux déchiffrer la dette qui est inscrite. » L'enfant se mit à rire et s'exclama tout hilar. « Tu es étonnant, grand-père. Toujours tu veux me faire croire que ces petits signes qui sont là-dessus veulent dire quelque chose. » Le vieux gémit profondément et amena le petit disque métallique à 2 ou 3 pouces de ses propres yeux. « 2012 !» finit-il par s'exclamer. Puis, il s'abandonna à un cocasse caquetage. « 2012 ! C'était l'année où Morgan V fut élu président des États-Unis par l'Assemblée des Magnats. Ce dut être une des dernières pièces frappées, car la mort écarlate survint en 2013. Seigneur, seigneur, quand j'y songe, il y a de cela 60 ans, et je suis aujourd'hui le dernier survivant qui ait connu ce temps-là. Cette pièce, Edwin, où l'as-tu trouvée ?» Edwin, qui avait écouté ce grand-père avec la condescendance bienveillante que l'on doit au radotage de ceux qui sont faibles d'esprit, répondit aussitôt. « C'est Houhou qui me l'a donné. Il l'a trouvé en gardant ses chèvres près de Saint-José au printemps dernier. Houhou dit que c'est de l'argent. Mais grand-père, n'as-tu point faim? Nous remettons-nous en marche. » Le bonhomme, ayant rendu le dollar à Edwin, serra plus fort le bâton dans son poing et se hâta vers le sentier, ses vieux yeux brillants de gourmandise. « Espérons, murmura-t-il, que Bec de Lièvre aura trouvé un crabe. Peut-être 2. C'est bon à manger, l'intérieur des crabes. Très bon à manger quand on n'a plus de dents et lorsqu'on a des petits-fils qui aiment bien, comme vous, leur grand-père, et se font un devoir de lui en attraper. Lorsque j'étais enfant... » Mais Louis, n'ayant vu quelque chose, s'était arrêté, et le doigt sur les lèvres fait signe à l'ancêtre qu'il se tut. Il ajusta une flèche sur la corde de son arc et s'avança, en se dissimulant dans une vieille conduite d'eau à moitié éclatée, qui avait en crevant fait rompre un rail. Sous la vigne vierge et les plantes rampantes qui le recouvraient, on apercevait le gros tube rouillé. Le jeune garçon arriva ainsi en face d'un lapin, assis sur son derrière près d'un buisson, et qui le regarda hésitant et tout tremblant. La distance était bien encore de 50 pieds, mais la flèche fila droit au but avec la vitesse de l'éclair, et le lapin transpercé poussa un cri de douleur. Puis il se traîna en couinant jusqu'au buisson pour s'y réfugier. Le jeune garçon était, comme la flèche, un éclair de peau brune et de fourrure flottante. Tandis qu'il bondissait vers le lapin, ses muscles se détendaient comme des ressorts d'acier. Puissant et souple dans ses membres maigres, il se saisit de l'animal blessé, l'acheva en lui cognant la tête contre un tronc d'arbre qui se trouvait à sa portée, puis, étant revenu vers le vieux, il le lui donna pour qu'il s'en chargeât. « C'est bon, le lapin, très bon !» marmotta l'ancêtre. « Mais en tant que friandise délicieuse au goût, je préfère le crabe. Quand j'étais enfant... » Edwin a patienté de la vaine loquacité du vieux l'interrompt. « Pourquoi, dit-il en lui coupant la parole, tant de phrases à propos de tout qui ne signifie rien ?» Il s'exprima moins correctement, mais tel était le sens approximatif de ses paroles. Son parler était guttural et impétueux, et le langage qu'il employait s'apparentait nettement à celui du vieux, qui était lui-même à dériver, tant soit peu corrompu dans l'anglais. Edwin reprit. « Cela m'agace d'entendre à chaque instant des mots que je ne comprends pas. Pourquoi, par exemple, grand-père appelles-tu le crabe une friandise ?» Un crabe, c'est un crabe et rien de plus. Que veut dire ce sobriquet ? Le vieillard soupira et ne répondit pas, et tous deux continuèrent à marcher en silence. Les bruits du ressac se faisaient de plus en plus forts, et comme ils émergeaient tous deux de la forêt, la mer soudain apparut au-delà de grandes dunes de sable. Quelques chèvres broutées parmi ces dunes, une herbe rare, gardée par un autre jeune garçon, vêtu de peau de bête, et par un chien, qui n'était plus qu'une faible réminiscence du chien et qui semblait bien plutôt un loup. Au premier plan s'est levée la fumée d'un feu, que surveillait un troisième garçon, non moins hirsute d'aspect que les deux autres. Autour de lui se tenaient accroupis plusieurs chiens loups, pareils à celui qui gardait les chèvres. À une centaine de yards de la côte, on voyait un groupe de rochers déchiquetés, et au grondement des vagues qui les battaient se mêlait une sorte d'aboiement profond. C'était le mugissement d'énormes lions marins qui s'y traînaient, les uns pour s'y étendre au soleil, les autres pour se battre entre eux. Le vieillard se dirigea vers le feu en accélérant le pas et en reniflant l'air avidement. « Des moules !» s'exclama-t-il extasié de sa petite voix chevrotante quand il fut arrivé. « Des moules, et qu'est-ce que c'est, ouhou ? N'est-ce pas un crabe ? Mon Dieu, mes enfants, comme vous êtes bons pour votre grand-père !» Ouhou, qui semblait être à peu près du même âge qu'Edwin, répond avec une grimace qui voulait être un sourire. « Mange, grand-père, tout ce que tu veux. Les moules ou les crabes, il y en a quatre. » L'enthousiasme paralytique du vieillard faisait peine à voir. Il s'assit sur le sable aussi rapidement que le lui permirent ses membres raides et tira des charbons ardents une grosse moule de rocher. La chaleur avait écarté les deux coquilles et la chair de la moule apparaissait, de couleur saumon et cuite à point. Entre le pouce et l'index, avec une hâte fébrile, le vieillard se saisit de ce succulent morceau et le porta vivement à sa bouche. Mais la moule était brûlante et l'instant d'après, il la recrachait violemment, en poussant des hurlements de douleur. Des larmes se prirent à couler le long de ses joues. Les jeunes garçons étaient de vrais petits sauvages, et sauvage était leur cruelle gaieté. Ils éclatèrent de rire devant la déconvenue cuisante du vieillard, qu'ils trouvèrent fort divertissante. Ouhou, en faisant l'air d'interminable cabriole, tandis qu'Edwin se roulait en pouffant sur le sol. Attiré par le bruit, le petit chevrier accourut et partagea bientôt leur hilarité. « Fais-les refroidir, Edwin, fais-les refroidir !» supplia le vieillard dans sa souffrance, et sans même essuyer les larmes qui continuaient à ruisseler de ses yeux. « Fais aussi refroidir un crabe, Edwin. Tu sais comme ton grand-père aime les crabes. » Un grand grésillement s'éleva du feu, qui faisait s'ouvrir et éclater dans une vapeur humide toutes les coquilles des moules. Ces mollusques étaient pour la plupart de forte taille et mesuraient de 3 à 6 pouces de long. Les gamins les tiraient hors du feu à l'aide de petits bâtons et la zélinièrent sur une vieille souche de bois flotté pour qu'ils y refroidissent. Le vieux gémissait. « De mon temps, on ne se moquait pas ainsi des anciens, on les respectait. » Les jeunes garçons ne prêtèrent nulle attention aux plaintes et aux récriminations de l'ancêtre. Mais le vieux, cette fois, fut plus prudent et ne se brûla point la bouche. Tous s'étaient mis à manger en faisant grand bruit avec leur langue et en claquant des lèvres. Le troisième gamin, qui s'appelait Bec de Lièvre et avait envie de rire encore un peu, déposa sournoisement une pincée de sable sur une des moules qu'il tendit ensuite au vieillard. Celui-ci, l'ayant porté à sa bouche, le sable écorcha ses gencives et ses muqueuses, et il en fit une horrible grimace. Le rire alors reprit tumultueux. Le vieux ne se rendait pas compte que c'était un mauvais tour qu'on lui avait joué. Il bredouillait lamentablement et crachait à force, jusqu'à ce qu'Edwin, pris de pitié, lui tendit une gourde d'eau fraîche dont il se rinça la bouche. « Voyons, où sont les crabes ?» demanda Edwin. « Grand-père, aujourd'hui, est en appétit. » En entendant parler de crabes, les yeux du vieux s'éclairèrent de gourmandise, et Houhou lui entendit un qui était fort gros. La carapace était au complet avec toutes ses pattes, mais elle était vide. De ses mains tremblantes, avec des petits cris d'impatience, le vieillard brisa une des pattes et ne trouva rien que du néant. Il gémit. « Un crabe, Houhou, donne-moi un vrai crabe !» Houhou répondit. « On s'est moqué de toi, grand-père, il n'y a pas de crabe, je n'en ai pas trouvé un seul. » Le désappointement se peignit sur le visage ridé de l'ancêtre, et il se reprit à pleurer abondamment, tandis que les gamins ne se tenaient pas de joie. Subrepticement, Houhou remplaça la carcasse vide que le vieux avait déposée par terre devant lui, par un crabe plein dont il avait fait craquer pattes et carapace et dont la chair blanche émettait un fumet délicieux. Les narines du vieillard en furent divinement chatouillées et il abaissa son regard tout étonné. Sa maussade humeur se mua instantanément en gaieté. Il renifla, renifla, puis, avec un ronron de béatitude, il commença à manger. Et tout en mâchant des gencives, il marmottait un mot qui n'avait aucun sens pour ses auditeurs. « Mayonnaise, mayonnaise !» Il fit claquer sa langue et continua. De la mayonnaise, voilà qui serait bon. Et dire que voici plus de 60 ans qu'on en a vu. 2 générations ont grandi sans connaître son merveilleux parfum. Dans tous les restaurants, autrefois, on en servait avec le crabe. Quand ils furent rassasiés, le vieux soupira, s'essuya les mains sur ses cuisses nues et son regard se perdit sur la mer. Puis, dans le bien-être d'un estomac bien garni, il se mit à fouiller au tréfond de sa mémoire. « Savez-vous, mes enfants, savez-vous que j'ai vu ce rivage grouillant de vie ? Hommes, femmes et enfants s'y pressaient tous les dimanches. Et il n'y avait pas d'ours pour les dévorer, mais là-haut, sur la falaise, un magnifique restaurant où l'on pouvait trouver tout ce que l'on désirait manger. 4 millions d'hommes vivaient alors à San Francisco. Et maintenant, dans toute cette contrée, il n'en reste pas 40 au total. La mer aussi était pleine de bateaux qui passaient et repassaient la Porte d'Or. Et il y avait dans l'air quantité de dirigeables et d'avions. Ils pouvaient franchir une distance de 200 milles à l'heure. Oui, c'était la vitesse minima qu'exigeait les contrats de la compagnie aérienne qui assurait le service postal entre New York et San Francisco. Il y avait un homme, un Français, qui avait offert la vitesse de 300 milles. Ceci avait paru beaucoup et trop risqué aux gens rétrogrades. N'importe. Le Français tenait le bon bout et il aurait mené son affaire à bien, n'eût été la grande peste. Au temps où j'étais enfant, il existait encore des gens qui se souvenaient d'avoir vu les premiers aéroplanes. Moi, j'ai vu les derniers, il y a de cela 60 ans. Les gamins l'écoutaient monologuer d'un air distrait. Ils ne comprenaient pas les trois quarts des choses dont il parlait, et ils étaient las de l'entendre ainsi rabâcher. D'autant qu'au cours de ses rêveries à haute voix, il employait un anglais plus pur qui n'avait qu'un lointain rapport avec le jargon grossier dont il se servait et l'utilisait vis-à-vis d'eux. Il continua. Les crabes, par contre, en ce temps-là, étaient plus rares, car on les pêchait partout, et c'était un mets très apprécié. La pêche en était autorisée un mois seulement, chaque année. Aujourd'hui, on peut les capturer d'un bout de l'an à l'autre bout. Cela, jadis, aurait paru merveilleux. À ce moment, une vive agitation qui se produisit parmi les chèvres paissant sur les dunes fit se lever les trois jeunes garçons. Les chiens accroupis autour du feu coururent rejoindre leurs camarades qui étaient restés à côté des chèvres et qui grognaient furieusement. Tout le troupeau rappliqua vers ses protecteurs humains. Une demi-douzaine de formes grises et efflanquées glissaient furtivement sur le sable et tenaient tête aux chiens dont le poil se hérissait. Edwin lança vers elle une flèche qui manqua son but. Mais Bec de Lièvre, armé d'une fronde toute semblable à celle qui dut servir à David dans sa lutte contre Goliath, fit tourbillonner une pierre dont le vol rapide siffla à travers l'air. La pierre tomba en plein parmi les loups qui disparurent vers les noires profondeurs de la forêt d'Eucalyptus. Leur fuite fit rire les trois gamins. Satisfaits, ils revinrent s'étendre sur le sable, près de l'ancêtre qui geignait lourdement. Il avait trop mangé et sa digestion était pénible. Et tout en tenant sur son ventre ses deux mains, aux doigts entrelacés, il poursuivait ses lamentations. Le travail de l'homme est éphémère et s'évanouit comme l'écume de la mer, oui, c'est bien cela. L'homme a sur cette planète domestiqué les animaux utiles, détruit ce qui était nuisible. Il a défriché la terre et l'a dépouillée de sa végétation sauvage. Puis un jour, il disparaît. Et le flot de la vie primitive est revenu sur lui-même, balayant l'œuvre humaine. Les mauvaises herbes et la forêt ont de rechef envahi les champs. Les bêtes de proie sont revenues sur les troupeaux. Et maintenant, il y a des loups sur la plage de Cliff House. Il parut effrayé à cette pensée, s'arrêta puis reprit. Si 4 millions d'hommes ont disparu en un seul pays, si les loups féroces errent aujourd'hui à cette place et si vous, progéniture barbare et les autant de génies éteints, vous en êtes réduits à vous défendre, à l'aide d'armes préhistoriques, contre les crocs des envahisseurs à quatre pattes, c'est à cause de la mort écarlate. Écarlate, écarlate, murmura Bec de Lièvre à l'oreille d'Edwin. Grand-père répète souvent ce mot. Sais-tu ce qu'il signifie ? Le vieux avait entendu la question et déclama de sa voix aigrelette. L'écarlate de l'érable à la saison d'automne me fait tressaillir comme une sonnerie de clairon qui passe, a dit un poète. Edwin expliqua à Bec de Lièvre. L'écarlate, c'est rouge. Tu ne sais pas cela parce que tu as été élevé dans la tribu du chauffeur. Aucun de ses membres n'a jamais rien su. L'écarlate est rouge, je le sais, moi. Bec de Lièvre protesta. Si l'écarlate est rouge, pourquoi ne pas dire rouge ? À quoi bon compliquer les choses par des mots que l'on ne comprend pas ? Rouge est rouge et voilà tout. Rouge n'est pas le mot propre, rétorqua le vieux. La peste n'était pas rouge, elle était écarlate. Le corps et la figure de celui qui en était atteint devenaient écarlates dans l'espace d'une heure. Je le sais, je l'ai vu. C'est écarlate qu'il faut dire. Mais Bec de Lièvre n'était pas convaincu. Il s'obstina. Rouge est assez bon pour moi. Papa n'emploie pas d'autres mots. Il dit que tout le monde mourut de la mort rouge. Le vieux s'irrita. Ton père, comme l'a dit Edwin, est un homme du commun, né d'un homme du commun. Il n'a jamais eu aucune éducation. Ton grand-père était un chauffeur, un domestique. Ta grand-mère, il est vrai, était de bonne souche. C'était une lady, mais ses enfants, ni ses petits-enfants, ne lui ressemblèrent. Avant la mort écarlate, elle était la femme de Von Warden, un des 12 magnats de l'industrie qui gouvernait l'Amérique. Il valait plus $1 milliard. Tu l'entends bien, Edwin ? Plus $1 milliard de petites caisses pareilles à celles que tu as dans ta poche. Puis vient la mort écarlate, et cette femme devint la femme de Bill, le chauffeur. Il avait l'habitude de la battre. Je l'ai vu de mes propres yeux. Voilà Bec de Lièvre qui fut ta grand-mère. Durant cette discussion, paresseusement allongé sur le sable, s'amusait à y creuser du pied une tranchée. Tout à coup, il poussa un cri. Son orteil s'était heurté à un corps dur auquel il s'était écorché. Il se redressa et se mit à examiner le trou qu'il avait creusé. Les deux autres garçons se joignirent à lui et rapidement, tous trois continuèrent à fouiller, enlevant le sable avec leurs mains. Trois squelettes apparurent. Deux étaient des squelettes d'adultes et le troisième avait appartenu à un adolescent. L'ancêtre vint sur ses genoux jusqu'au trou au-dessus duquel il se pencha. « Ce sont, annonça-t-il, les victimes de la peste écarlate. Voilà comment on mourait n'importe où. Ceci fut sans doute une famille qui fuyait la contagion et qui est tombée ici, sur la grève de Cliff House. Il... Mais que fais-tu là, Edwin ?» Edwin, avec la pointe de son couteau de chasse, avait commencé à faire sauter les dents de la mâchoire d'un squelette. « Seigneur, que fais-tu là ?» répéta le vieux tout effaré. « C'est pour en fabriquer un collier, » répondit le gamin. Les deux autres garçons imitèrent Edwin, grattant ou cognant de la pointe ou du dos de leur couteau. Le vieux gémissait. « Vous êtes des sauvages, des vrais sauvages. La mode vient déjà de porter des parures de dents humaines. La prochaine génération se percera le nez et les oreilles et se parera d'os d'animaux et de coquillages. Aucun doute là-dessus. La race humaine est condamnée à s'enfoncer de plus en plus dans la nuit primitive avant de reprendre un jour sa réascension sanglante vers la civilisation. » Le sol aujourd'hui est trop vaste pour les quelques hommes qui y survivent. Mais ces hommes croîtront et multiplieront, et dans quelques générations, ils trouveront la terre trop étroite et commenceront à s'entretuer. Cela, c'est fatal. Alors, ils porteront à la taille des scalpes de leurs ennemis, comme toi, Edwin, qui est le plus gentil de mes petits-enfants. Tu commences déjà à porter sur l'oreille cette horrible queue de cochon. Crois-moi, mon petit, jette-la au loin. Quelle tapette, rogna Bec de Lièvre. L'extraction des dents des trois squelettes était terminée. Et les trois jeunes garçons se mirent en devoir de se les partager équitablement. Ils étaient vifs et brusques dans leurs gestes et dans leurs paroles, et la discussion fut chaude. Ils s'exprimaient par monosyllabes en phrases courtes et hachées. Puis, satisfaits de leur trouvaille, ils s'assirent en rond autour de l'ancêtre, et tout en jouant avec des petits bouts d'ivoire, Bec de Lièvre demanda « Veux-tu, vieux, nous parler un peu de la mort rouge ?»« De la mort écarlate, » rectifia Edwin.